parole ce matin, coincé entre le message de la fête des mères, le message de la fête des pères et le week-end pour les parents. Donc devinez sur quoi va porter mon message, sur quelque chose qui concerne la famille évidemment. Alors, prenons ensemble Genèse chapitre 2, versets 20 à 24. Donc vous allez voir, c'est un truc léger, ça va bien se passer, je sais qu'il fait chaud. Donc si vous voulez visualiser derrière moi, je ne sais pas moi, des vagues, des sources d'eau abondantes, des cascades rafraîchissantes au milieu d'un vert luxuriant, ça peut vous aider, ben allez-y. Hein. Donc Genèse. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit « Ah, voici cette fois celle qui est de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Donc, on va parler mariage, on va parler famille, on va parler enfants. Et plus précisément, du mariage expliqué aux enfants. Donc je sais qu'ici, il n'y a pas que des couples mariés avec des enfants, il y a aussi des célibataires, il y a des gens qui sont mariés mais qui n'ont plus d'enfants à la maison. Mais de toute façon, ce message concerne tout le monde. Vous êtes tous au moins grand-père, grand-mère, tonton, tata, cousine, cousin, voisine de palier, quelqu'un qui a des enfants. On a tous quelqu'un qui a des enfants dans son entourage plus ou moins proche. Donc de toute façon, tout le monde est concerné. Alors, avez-vous déjà expliqué, essayez d'expliquer ce qu'est le mariage à un enfant ? Réfléchissez. Je suis presque sûre que non. Et bien souvent, c'est même pas utile. Il est rare qu'un enfant, une petite fille ou un petit garçon, vienne en bas âge, hein, je ne parle pas d'un adolescent ou d'un adulte, mais il est rare qu'un enfant vienne et vous dise « Maman, papa, tonton, tata, c'est quoi le mariage ?» Moi, ça ne m'est jamais arrivé, je n'ai jamais non plus entendu parler d'un enfant qui pose cette question. Et pourquoi il ne pose pas cette question-là ? Parce que même tout petit, ils savent déjà, ils ont déjà une idée de ce qu'est le mariage. Alors les petites filles, elles vont immédiatement penser, quand on leur dit mariage, elles vont penser à un monsieur qui est bien habillé, une dame en robe de princesse, avec le voile, le diadème. Ils vont penser à une belle fête, à une belle réunion de famille, éventuellement à une cérémonie avec un pasteur ou un prêtre, ou alors même pas du tout, juste une cérémonie à la mairie. Voilà, c'est ça le mariage pour les enfants. C'est deux personnes qui sont amoureux, deux personnes qui s'aiment, deux personnes qui vivent ensemble, qui emménagent ensemble, deux personnes voilà, qui se font beau pour aller se marier. C'est ça le mariage pour les enfants. Ça va pas plus loin que ça. Donc pour eux, comme ils en ont déjà une image, ils ne posent pas de questions, ils ne cherchent pas à aller plus loin. Mais nous, adultes et adultes chrétiens de surcroît, nous savons que le mariage est bien plus important que ça. C'est Dieu qui a eu l'idée du mariage, on l'a vu là. Quand il a créé Ève et qu'il l'a donnée à Adam, c'était là le premier mariage dont on parle dans la Bible. Donc cette idée de mariage, elle vient de Dieu et on sait que les idées qui viennent de Dieu sont forcément bonnes et contribuent à notre édification. Si c'est Dieu qui en a eu l'idée, c'est qu'il a vraiment des choses à nous dire à ce sujet-là. Et la Bible, tout au long des livres de la Bible, nous montre combien le mariage est vital, combien il est important, tellement important qu'en réalité Dieu utilise le mariage comme image de notre propre relation avec lui. Vous êtes d'accord avec moi jusque-là ? Donc, messieurs, mesdames qui êtes mariés, si vous voulez savoir comment se porte votre mariage, regardez comment se porte votre relation avec Dieu, puisque c'est l'image que Dieu utilise dans le mariage. On sait aussi que le mariage est fondateur, il est fondateur pour les individus. Il est supposé être un endroit sécurisé. Le mariage, c'est censé être un endroit sécurisé avec des barrières, avec le sang de l'agneau qui forme une barrière autour de la famille. Un endroit sécurisé où on va pouvoir recevoir des enfants et les élever en toute sécurité. On va pouvoir leur apporter la parole. On va pouvoir faire en sorte que ça devienne des adultes fermes et aimant Dieu. Ils vont apprendre à grandir sereinement. Le mariage est aussi quelque chose de fondateur, une institution fondatrice pour notre société. Le mariage est tellement important pour toutes ces raisons, il est nécessaire que nous ayons des ressources, des bases d'enseignement sur le mariage. Malheureusement, il y en a très peu. Il y en a pour les adultes, il y en a pour les ados, mais il n'y en a pas pour les enfants. Pratiquement pas. Et il est important que nous donnions cette fondation-là. Il est important que les enfants comprennent ce qu'est le mariage et qu'on les aide à fonder des choses solides à propos du mariage. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. D'accord ? Alors, on va commencer par les desseins de Dieu sur le mariage. Le mariage est la plus ancienne et la plus noble des institutions que Dieu a données à l'humanité. Réfléchissez à ça. Le mariage était l'intention de Dieu pour l'homme dès le début. C'est lui qui a décidé que le mariage était bon pour Adam. C'est lui qui a décidé de lui donner une compagne. C'est lui qui a décidé donc de lui donner, de lui donner comme épouse cette compagne qui était Ève. Et dès le début, ce mariage a existé en Éden. Et la parole dans Hébreux 13 dit « Que le mariage soit tenu en honneur à tous égards ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le mariage est quelque chose que Dieu tient en grand honneur, qu'il a créé lui-même, qu'il a créé pour l'homme et sur lequel il a placé son autorité divine. Donc dans le mariage, dans l'institution du mariage, il y a l'autorité de Dieu. Donc c'est quand même pas rien, c'est pas quelque chose d'anodin. Cette institution, il l'a pensée comme une alliance entre un homme et une femme, unis pour la vie, fidèles l'un à l'autre, avec une intimité et un amour qui le reflètent. C'est pour ça qu'il est dit que le mariage, c'est une image de notre relation avec Dieu. L'amour, l'intimité qui existe dans un mariage reflète l'amour de Dieu, l'intimité que nous sommes censés avoir avec Dieu. L'institution du mariage est censée apporter, à partir de la famille, une nouvelle façon de vivre pour le monde. Un endroit où on peut élever des enfants qui aiment Dieu et leur prochain. C'est pour ça qu'il est aussi fondateur pour la société. Alors certains se poseront la question, comment puis-je enseigner ce qu'est le mariage à mes enfants alors que je suis moi-même divorcée ? Ou comment puis-je enseigner le mariage à mes enfants alors que je suis un papa ou une maman célibataire ? Ou que mon mariage n'est pas forcément source d'encouragement pour les autres, ou que mon mariage n'est pas ce qu'il devrait être. Alors, on va se mettre tout de suite à l'aise. En ce qui concerne le mariage, la famille, la sexualité, la relation avec le sexe opposé, je défie quiconque ici présent et sur Internet de me dire qu'il n'a jamais commis une erreur. On a tous à un moment commis une erreur. On a tous pensé des choses erronées. On a tous commis des actes qui ont eu des conséquences néfastes. On a tous au moins fait une bourde sur le sujet. Alors, l'avantage avec Dieu, c'est qu'en Jésus, il n'y a pas de condamnation. Donc, malgré toutes ces erreurs, il ne faut pas stopper l'histoire ici et dire « Non, non, moi, je veux dire, avec ce que j'ai fait dans ma jeunesse, ce n'est même pas la peine, je ne suis pas la personne la mieux placée pour enseigner le mariage à des enfants. » Erreur, erreur, grosse erreur. Vous êtes, quoi que vous ayez fait, totalement en mesure d'enseigner les enfants sur le mariage et sur tout autre sujet d'ailleurs. Parce qu'en Jésus, on a le pardon, on est libéré du poids de nos péchés, on peut recevoir la restauration dans une relation. Il suffit de venir à Dieu, de lui parler de ce dont on a sur le cœur, du fardeau qu'on a sur le cœur, et les choses, il est bon et juste pour nous pardonner. Ce qui veut dire qu'il est bon et juste pour oublier tous ces épisodes passés. Il est bon et juste pour, voilà, il n'y a pas d'autre mot, oublier. Il peut oublier tout ça. Et aujourd'hui, en Jésus, nous sommes des créatures nouvelles, donc en Jésus, le poids de ses fautes a disparu, c'est terminé. Donc oui, vous êtes tout à fait en mesure d'enseigner les enfants sur le mariage malgré vos erreurs. L'important, c'est un, de ne pas nier ces erreurs, deux, d'y faire face, de venir à Dieu, de les déposer au pied de la croix, et trois, de passer outre et de ne pas s'arrêter là, de dire voilà, pour les enfants, alors pour les miens, ceux de ma cousine, ceux de mon voisin de palier, pour ces enfants-là, Je vais me battre, je vais passer au-delà de toutes ces erreurs, puisque de toute façon, elles ont été effacées par Dieu en Jésus. D'accord ? Donc, ne vous arrêtez pas là. Les choses peuvent être des fois, les fardeaux, les choses passées peuvent être lourdes. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ne vous arrêtez pas là. Par pitié, ne vous arrêtez pas là. Vous savez ce qu'on trouve en Jésus, le pardon, la restauration. Donc, oubliez toutes ces choses et concentrez-vous sur l'avenir. Et l'avenir, ce sont les enfants. D'accord ? Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, maintenant, il faut expliquer aux enfants ce qu'est le mariage, malgré toutes ces erreurs. Donc, tout comme nous, on fait des erreurs, les enfants en font aussi. Donc, c'est très simple. Il vous suffit, avec des mots très simples, de parler aux enfants en leur expliquant, voilà, écoute, moi, toi, tu fais des bêtises, moi, j'en ai eu fait aussi. À un moment, j'ai cru avoir trouvé le papa ou la maman idéal, je me suis trompée. Tout comme toi, tu te trompes. D'accord ? Souvent, les enfants, malgré les recommandations aimantes de leurs parents, genre « ne touche pas à la porte du four, c'est chaud, tu risques de te brûler », une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, le petit touche à la porte du four. On a tous connu ça dans nos familles. Donc le petit est blessé, il revient en pleurant et on lui explique « tu vois, je te l'avais dit ». Avec Dieu, c'est la même chose. Souvent, quand on a commis les erreurs qu'on a commises, qu'elles soient petites ou grandes, peu importe, souvent on a eu des avertissements de Dieu. C'est ça qu'il faut dire aux petits. Tu sais, nous aussi, en tant qu'adultes, on se trompe. Nous aussi, des fois, on a des avertissements. Et nous aussi, des fois, on ne les écoute pas ou on les entend trop tard. Donc voilà, nous aussi, on se trompe. En tant que parent ou en tant qu'adulte, on peut aussi se tromper, comme les enfants. Donc vous voyez, quelqu'un de divorcé ou de père ou mère célibataire a de toute façon bien des arguments pour reprendre le sujet et quand même faire avancer l'enfant sur l'idée du mariage. Alors attention, la chose qu'il faut quand même faire comprendre aux enfants, c'est que si le choix du papa ou de la maman à l'époque fut une erreur, bien faire comprendre aux enfants qu'eux n'en sont pas une. L'enfant qui naît d'une union qui n'a pas été le meilleur de Dieu n'est pas une erreur. La relation entre les deux est une erreur, le choix du conjoint est une erreur, mais l'enfant qui naît de cette relation-là n'en est absolument pas une. Ça, c'est faut bien faire comprendre ça aux enfants. Les enfants sont des cadeaux de Dieu, jamais une erreur. Voilà, on a déblayé le terrain. Donc, comment faire pour montrer l'image d'un mariage comme il se doit à des enfants ? Alors, lorsque c'est le cas, on doit être reconnaissant de vivre dans un mariage chrétien. D'accord ? C'est une chance énorme de pouvoir offrir cette image-là à nos enfants, d'abord, et puis au monde qui nous entoure, ensuite. Il est bien évident qu'un mariage réussi, c'est un travail de longue haleine. Il nécessite une attention particulière, une attention de chaque minute, tous les jours. On est tous confrontés au quotidien, qui n'est pas toujours super glamour. Mais malgré ça, malgré le quotidien, il est important de toujours travailler dans son mariage à renforcer encore et encore les liens avec son conjoint, et tout particulièrement lorsqu'il y a des enfants. L'alliance qui unit un père et une mère, le mariage, l'institution du mariage, pour qu'elle signifie quelque chose pour les enfants, il faut qu'elle soit visible aux enfants. Alors, c'est sûr que le mariage, c'est une alliance, c'est un document signé dans le naturel, et c'est surtout une alliance spirituelle. Donc vous me direz, comment rendre une alliance spirituelle visible à des enfants ? Alors, il y a des petits trucs, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Il suffit de vous rappeler comment vous vous comportiez au début de votre mariage. Tout simplement. Donc, au début de votre mariage, je suis sûre que tous les hommes, presque, vous écriviez des petits mots à votre femme. Des petits post-it, des petits mots doux, des textos, voilà, des textos. Mais les textos, les enfants ne lisent pas les textos. Donc, redécouvrez le plaisir d'écrire des petits mots doux à votre femme, des post-it, des petits mots que vous mettez n'importe où. C'est quelque chose qu'on fait au début du mariage, normalement. Ouais, c'est vrai qu'avec les textos, maintenant, ça tronque un peu le sujet. Mais bon, redécouvrir le plaisir d'écrire un petit mot. Un petit mot, c'est pas pareil. On peut le mettre dans son sac, on l'emporte, on le glisse dans un livre, on le met sur la table de nuit. Ça peut rester. Et puis surtout, un petit mot, s'il est mis sur le frigo, sur le rétroviseur de la voiture, sur la porte de la salle de bain, sur le miroir de la salle de bain, fatalement, à un moment ou à un autre, il va tomber sous l'œil des enfants. Et en fait, c'est le but du jeu. C'est ça qu'on veut. On veut rendre visible le lien spirituel qu'est le mariage. Donc, redécouvrez le plaisir d'écrire des petits mots à votre femme. Écrivez-lui des post-it, collez-les partout. Le but du jeu, c'est 1. de rappeler à votre femme que vous l'aimez, de lui rappeler l'alliance qui vous unit et d'intriguer vos enfants. Parce que vos enfants, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est ces petits mots? Ça va les intriguer. Ce qu'il faut, c'est les faire réfléchir, les amener à poser des questions. Et même s'ils ne posent pas de questions, de toute façon, le lien spirituel qui unit son père et sa mère va devenir de plus en plus réel pour eux. D'accord? Donc, vous vous rappelez tout ce que vous écriviez sur les post-it? Je n'ai pas besoin de vous... Si? Vous voulez prendre des notes? Non? Ça va vous en rappeler. Ok. Montrez-vous mutuellement de l'affection. Ça aussi, c'est une façon de rendre visible aux enfants le lien spirituel qui unit son père et sa mère. Alors, un conseiller matrimonial préconise qu'il faut avoir au minimum, avec son époux ou son épouse, 10 contacts par jour pour entretenir la flamme. Alors, 10 contacts par jour, j'entends, ça n'est pas une marque... c'est une marque d'affection physique non sexuelle, d'accord? Là, on parle de démontrer son affection à son époux, son épouse, devant les enfants. Donc, ça peut être une étreinte rapide, une caresse sur la joue, lui prendre la main, lui mettre les mains autour des épaules, un petit bisou en passant, voilà, coller serré quand on regarde la télé, voilà, je suis sûre que vous ne manquez pas d'idées. Tous ces signes sont un mode de communication non verbal que tout le monde peut comprendre. Marié, pas marié, toute tranche d'âge confondue, tout le monde peut comprendre ce langage-là. Spécialement les enfants qui, eux, sont habitués à recevoir ce genre de communication. Ils sont habitués aux gestes d'affection, les enfants, les caresses, les bisous. Un enfant élevé dans une famille à peu près normale est habitué aux câlins. Donc, il sait que les câlins, les bisous, les marques d'affection physiques comme ça, ce sont des gestes qui parlent d'amour, qui parlent d'amour de ses parents envers lui. Donc, il est bon d'en avoir entre adultes et surtout devant les enfants, en public, mais surtout devant les enfants. Vous devez rendre, je vous rappelle, rendre visible le lien spirituel qui vous unit. Alors bon, vous allez peut-être avoir des commentaires genre « Bah, qu'est-ce que vous faites? Et pourquoi vous faites des bisous? Et qu'est-ce que c'est? Et berk, berk, berk. » C'est pas grave. L'important... C'est un, de les intriguer, deux, de les pousser à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, c'est comme quand nous, on vient te bisouiller ou quand on vient te toucher les joues. C'est pareil. Ce sont des gestes qui parlent d'amour. Donc, comme je te parle d'amour en te bisouillant toute la journée, eh bien, je parle d'amour aussi à ton père ou ton père me parle d'amour à moi. Voilà, ce sont... Voilà, donc 10 fois par jour pour entretenir la flamme. Donc, un, on entretient la flamme. Deux, on intrigue les enfants, donc c'est tout bénef, 10 fois par jour. Alors, ça c'est vu. Parler le langage d'amour. Alors, un autre auteur spécialiste du mariage dit que ce qui rassure le plus un père et une mère, c'est de savoir que leur... ce qui rassure le plus les enfants, c'est de savoir que leur père aime leur mère et que leur mère aime leur père. Que ses parents, leurs parents sont mariés, unis et qu'ils ne divorceront jamais. Entre guillemets, qui ne les quitteront jamais. Donc ça, c'est un langage d'amour qui doit être courant et quotidien dans la famille. C'est vrai que on ne dit pas souvent à des enfants « oui, j'aime ton papa » ou « oui, j'aime ta maman » et « non, je ne divorcerai jamais d'elle ». Ce ne sont pas des conversations courantes dans les familles. On ne se sent pas, on sent pas la nécessité de préciser ça à des enfants. Non, je ne divorcerai pas de ton père. Non, je ne quitterai jamais ta mère. Ce n'est pas le genre, à moins qu'il y ait un clash dans la famille, on n'aborde pas ce genre de sujet. Or, les enfants, on est en train de parler, un, de rendre visible le lien spirituel qui les unit, et de deux, de les aider à construire petit à petit une image positive du mariage. Alors, ne vous méprenez pas, les enfants ne vous disent pas tout, quel que soit leur âge. On le sait. Donc, un enfant, même s'il ne dit pas à ses parents qu'il peut être angoissé par une éventuelle séparation ou par un éventuel divorce de ses parents, peut-être qu'il le pense quand même. Peut-être qu'à l'école, dans sa classe, la majorité des copains de classe sont divorcés, par exemple. Moi, je sais qu'une fois, avec Elliot, j'allais le chercher à l'école un jour, et la maîtresse me dit « Tiens, il faudrait que je vous parle. » Bon, OK. Et elle me dit « Mais ça va à la maison? Vous êtes en train de vous séparer de votre mari ?» Je dis « Bah non. » Elle me dit, ben voilà, nous, en classe, on a mis en place une sorte de relation entre deux classes différentes. Donc, les gamins s'écrivent. Hein. Ils ont chacun un petit correspondant dans une autre classe d'une école de Nice. Et chacun s'écrit. Donc, la première carte qu'ils ont envoyée à leur petit correspondant, il fallait qu'ils se présentent. Donc, je m'appelle machin, j'étais là, j'habite là, mon papa fait ci, ma maman fait ça, j'ai un frère, j'ai une soeur, machin, truc et tout. Et donc, les gamins devaient préparer un petit brouillon de ce qu'ils allaient écrire. Et donc, Elliot dit « Bonjour, je m'appelle Elliot, j'ai 8 ans, hein, mon papa et maman sont divorcés, je vis avec mon papa. » Bon. Donc la maîtresse qui me voyait tous les matins, elle me dit mais non, elle lui fait mais Elliot, t'es sûr, tu vis avec papa, mais je vois maman tous les matins. Il s'est pas démonté, il a dit oui, c'est maman qui m'emmène à l'école, mais je vis avec papa. Donc du coup la maîtresse s'est posé la question quoi. Donc ne sous-estimez pas vos enfants, ils ont la capacité de se mettre des trucs dans la tête et de se faire des films malheureusement. Si on n'y prend pas garde, ils peuvent vivre avec cette angoisse là. Donc je ne vous dis pas que vos enfants sont persuadés que vous allez divorcer ou que vous allez les abandonner sur le trottoir. Je vous dis juste qu'on n'y pense pas, mais c'est une bonne chose de leur dire « Ne t'inquiète pas, j'aime ton papa, j'aime ta maman, on est mariés ensemble, on forme une famille et il n'est pas question que ça change. » Les enfants ont besoin d'être rassurés en permanence et ils ont besoin de répétition. Voilà, petite parenthèse. Ouais. Chose importante, les enfants ont besoin de répétition, vraiment besoin de répétition. Vous savez combien, quand vous êtes papa ou maman, vous savez combien de fois on doit répéter les mêmes choses tous les jours. Range ta chambre, range tes chaussures, fais tes devoirs, et des choses qu'on répète tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pardon. Et ces répétitions sont nécessaires. Elles sont nécessaires pour que l'enfant prenne des habitudes et elles sont nécessaires si on veut que les choses restent dans leur mémoire. Et là, on est en train de bâtir une vision positive du mariage dans l'esprit de nos enfants. Donc tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais le plus régulièrement possible, on se doit de leur répéter des choses positives sur le mariage, des choses positives sur l'union de leur père et de leur mère. Toutes ces choses ont besoin de répétitions. Et ces répétitions-là bâtissent une image dans l'esprit de vos enfants. Donc pensez à leur répéter toujours les mêmes choses. Et enfin, dernier petit conseil pour rendre visible cette institution qu'est le mariage, ce lien spirituel, parlez des bénédictions et des paroles d'encouragement à votre conjoint. Pour avoir une image positive du mariage, un enfant a besoin de plusieurs choses. Donc, il a besoin qu'on lui dise qu'on l'aime, il a besoin qu'on lui dise qu'on aime son papa, sa maman, qu'on va rester avec, etc., etc. Mais il a aussi besoin d'entendre des bonnes choses que son père dit de sa mère ou que sa mère dit de son père. Parce que je ne vois pas comment il pourrait avoir une image positive du mariage s'il vit entre un papa et un maman qui l'aiment, mais qui ne se montrent pas de respect ou de marque d'encouragement ou de respect. Donc, un papa doit souvent, devant les enfants, parce que, bon, surtout devant les enfants, dire combien il aime sa mère, dire combien il respecte le travail de sa mère, dire combien il la remercie pour tout ce qu'elle fait, dire combien sont bons les repas qu'elle prépare, voilà, ce genre de choses. Et la femme, à l'inverse, doit remercier publiquement, enfin publiquement, devant ses enfants, elle doit apprécier le travail que fait son mari, apprécier les longues heures qui passent dehors de la maison pour gagner de quoi faire vivre sa famille. Elle doit dire qu'elle apprécie quand il nettoie la voiture, elle doit dire qu'elle apprécie quand il répare un truc qui ne va pas dans la maison. Se marquer et exprimer devant les enfants des marques de respect, de remerciement, des paroles d'encouragement. C'est très très important pour les enfants. C'est comme ça qu'ils vont se bâtir l'idée de la relation qui convient entre un mari et une femme. Prier. Aussi, prier. Aussi et surtout, prier avant les repas, par exemple. Pourquoi avant les repas ? C'est en général une prière courte, simple, qui réunit tous les membres de la famille en même temps, normalement. D'accord ? Donc c'est l'occasion ou jamais de parler des versets ou de parler des paroles bibliques sur chacun des membres de la famille. C'est une occasion de prier ou de parler un projet commun pour la famille. Priez ensemble, ayez des moments de communication, de dévotion en famille, pardon. Profitez-en pour bénir tout particulièrement votre épouse ou de bénir tout particulièrement votre époux. Ou profitez-en pour bénir chacun de vos enfants avec leurs spécificités. Priez pour lui selon que c'est un garçon ou une fille. Les bénédictions et les paroles d'encouragement ne seront pas les mêmes. Essayez de faire de ce moment-là, enfin je veux dire, une prière avant un repas, c'est quelque chose qui va durer quoi ? 5-10 minutes ? Essayez de concentrer en 5-10 minutes toutes ces choses-là. Une parole d'encouragement et de bénédiction pour chacun des membres de la famille. C'est très important. plus les paroles d'encouragement, les bénédictions, au fur et à mesure qu'elles sont parlées, contribuent à bâtir une image solide et du mariage, et de la famille, et de la relation qui existe entre son père et sa mère pour les enfants. C'est avec ça, c'est avec ce bagage-là qu'il va pouvoir entrer dans la vie et à son tour passer et vivre ces étapes-là. Donc elles sont très très importantes. C'est aussi une façon de leur dire, vous voyez, l'amour et le respect que je porte à votre père, vous voyez l'amour et le respect que me porte votre père, ça, c'est une façon totalement tangible de rendre tangible justement ce lien spirituel qui unit un père et une mère. C'est aussi une façon de dire aux enfants, vous voyez ce lien solide que l'un et l'autre, nous n'hésitons pas à parler en public, ce lien solide-là, il est tellement solide que votre père et moi, on s'appuie dessus pour aller de l'avant. Et vous pouvez vous appuyer dessus aussi. C'est quand même important que les enfants réalisent ça. Et puis, dernière chose, plus ce lien est tangible et solide entre le papa et la maman, moins l'enfant sera tenté, et là j'ai testé pour vous, moins l'enfant sera tenté d'aller voir maman, dire « Maman, est-ce que je peux ?» Et la maman dit non. Deux minutes après, hop, « Papa, est-ce que je peux ?» Là, le papa dit oui. Et là, drame. Drame parce qu'on n'est pas cohérent en tant que père et mère. De deux, le gamin sent tout de suite que ce lien n'est pas tant solide que ça. Donc vraiment, la solidité de ce lien est à préserver. Le rendre tangible aux enfants est vraiment la priorité. Plus ce lien existe physiquement dans la famille, plus il sera une barrière contre ce genre d'épisode avec les petits. D'accord ? De plus, ces enfants doivent apprendre le respect de toute façon. Donc, si un papa respecte sa maman, l'enfant fera pareil. Si la maman respecte le papa, l'enfant fera pareil. Si effectivement, il n'y a pas de respect entre l'un et l'autre, l'enfant n'apprendra pas grand-chose. Pourquoi le mariage est important pour les enfants, les hommes ? Ça va ou c'est pas trop... Ouais ? Pourquoi le mariage est important pour les enfants, les hommes, les femmes et le monde ? Alors, le mariage est une bonne chose pour les enfants. Ah, c'est ma partie préférée du message. Avoir un père et une mère, c'est quelque chose qui n'a pas de prix pour les enfants. C'est, je veux dire, on sait tous, on se rend tous compte qu'un papa et une maman, c'est le monde entier réside dans son papa et de sa maman, pour un tout petit. D'accord ? Or, il faut un homme et une femme pour faire un enfant. Tournez-le comme vous voulez, les prouvettes, les machins, c'est il faut un homme et une femme. Et le mariage, c'est ce qui tient ensemble cet homme et cette femme. Le mariage selon Dieu. Parce qu'on sait tous, un mariage sur deux, je crois, disent les statistiques, on sait tous qu'un mariage sans Dieu, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Un homme et une femme sont deux êtres humains qui sont tellement différents qu'ils ont rien en commun, rien en commun. Si Dieu n'est pas là pour cimenter cette relation-là, l'homme et la femme ne sont pas faits pour vivre ensemble, ils sont à l'opposé. Vous réalisez à quel point on est à l'opposé l'un de l'autre ? Rien ne peut faire qu'on reste ensemble. Alors oui, il y a les déclarations enflammées du début de la relation, « Je t'aime, je vais rester avec toi jusqu'à ce que la mort nous sépare ». C'est du pipeau. Sans Dieu, ça ne marche pas. Je vous le dis tout net. Sans Dieu, ça ne marche pas. D'accord ? Il faut Dieu pour que ça tienne ensemble. Et si ça tient ensemble avec Dieu, c'est alors que viennent les enfants et c'est alors qu'on peut élever les enfants de manière à les armer pour l'avenir. Alors, il faut un papa et une maman. Donc, voyons d'un peu plus près le rôle de la mère. La mère communique plutôt le ton moral et la vertu aux enfants, tandis que le père donne, pourrait-on dire, le statut social. C'est ce que signifie l'expression qu'on trouve souvent dans la Bible. Un tel, fils de Néan, sa mère était. Je veux dire, on aurait pu se contenter de présenter la généalogie des personnages de l'Ancien Testament en disant « il est le père de… » Non, la Bible mentionne toujours « sa mère était » en la citant. C'est bien que la mère a une importance capitale dans l'histoire de l'adulte. Non. Ça prouve que les mamans ont une influence morale, en tout cas. alors qu'elle soit en bien ou en mal, mais elle a une influence morale importante, puisque sinon elle ne serait pas citée dans la Bible. Les enseignements que les enfants reçoivent de la maman dès leur plus jeune âge ont un immense impact sur leur vie. D'ailleurs, je vous rappelle l'excellent message du pasteur Moulin de la semaine dernière sur la responsabilité d'être maman, excellentissime, excellentissime. C'est dire l'impact que les mamans ont dans la vie de leurs enfants. Une bonne éducation chrétienne est vitale et imprimera sa marque sur les enfants toute leur vie. Donc, si c'est une éducation chrétienne, l'enfant risque d'être impacté avec des valeurs chrétiennes. Si c'est une éducation qui n'est pas chrétienne, l'enfant sera impacté avec des choses du monde. C'est assez logique. Alors, regardons un peu plus près l'épisode de Exode 2, verset 9. On a souvent cité les paroles de la fille de Pharaon. Vous savez, cette fille de Pharaon qui a recueilli Moïse. Vous vous rappelez cet épisode-là ? Donc ce verset-là dit « Emporte cet enfant ». Donc c'est la fille du Pharaon qui a trouvé Moïse. Vous savez, elle a trouvé Moïse dans le Nil, dans son petit panier là. Et elle l'a confié à une femme hébreu, qui est en l'occurrence la mère de Moïse. Elle le lui a confié en lui disant « Écoute, emporte-le, allaite-le pour moi et ramène-le-moi. » Et je te donnerai un bon salaire. En fait, ça, encore une fois, c'est une image dont se sert Dieu. Quand la fille de Pharaon a confié cet enfant à la mère de Moïse, c'est une image que Dieu utilise, en quelque sorte, pour montrer à toute mère ce qu'elle doit faire quand il lui confie un enfant. Emporte cet enfant et allaite-le pour moi, et je te donnerai ton salaire. Telle est l'injonction du Seigneur à la mère dans les bras de laquelle il place un enfant. Vous comprenez ce que je veux dire ? Entre parenthèses, savez-vous que le mot « allaiter » a la même racine en hébreu que le mot « élever » ou « éduquer » ? Donc en réalité, une femme qui allaite un enfant, elle l'allaite, mais elle prend aussi part à son éducation. Donc cette courte phrase « emporte-le » Emporte cet enfant et allaite-le pour moi, je te donnerai ton salaire. Cette courte phrase nous montre deux points essentiels. Un enfant, c'est un petit être qui est créé et confié par Dieu à des parents, à une maman en l'occurrence, pour qu'elle l'allaite. La deuxième chose, c'est élever, c'est éduquer. Et on peut voir là que l'éducation se fait dès les premiers mois d'un enfant, parce qu'un enfant, il est allaité pendant quelques mois, ensuite il passe à la nourriture solide. Donc, si allaiter veut dire éduquer, ça signifie pour Dieu que l'éducation d'un enfant, donc l'éducation chrétienne d'un enfant, se fait dans les premiers mois. D'accord ? Donc, élever, c'est éduquer. Et on peut voir là que l'éducation se fait dès les premiers mois. Il doit être éduqué par la mère pour ensuite être rendu à Dieu, équipé, est prêt à accomplir ses plans. En fait, c'est ça l'image dont se sert Dieu pour illustrer cette histoire avec la mère, avec la fille de Pharaon. En fait, la fille de Pharaon a trouvé cet enfant, comme une mère reçoit un enfant. Elle le confie à cette femme hébreu en lui disant « éduque-le ». Entre guillemets, sous-entendu, « éduque-le comme les Hébreux ». D'accord ? « Éduque-le comme les Hébreux ». Tu l'allaites, tu l'éduques et tu me le ramènes. Elle le ramène, la maman de Moïse la ramène à la fille de Pharaon. Pourquoi ? Pour qu'il finisse son éducation de manière égyptienne. Ça semble pas logique, mais si, c'est logique en fait. Au moment où ce petit a fini d'être éduqué à la cour du Pharaon, Dieu avait déjà en tête ce qui allait se passer. Il avait déjà en tête le plan de Moïse. Il savait déjà que Moïse allait faire sortir le peuple hébreu d'Égypte. Donc vous pensez vraiment que si Moïse n'avait pas reçu dans ses premiers mois, dans ses premières années, une éducation juive, il aurait pu accomplir le plan de Dieu chez les Hébreux des années plus tard ? Non. En fait, l'éducation se fait dans les premiers mois. Dans les premiers mois. Ça veut dire que dans les premiers mois, tout se joue pour préparer les enfants à entrer dans la vie et à servir Dieu et les plans que Dieu a pour eux. Je vous ai perdu ou... Non, ça va ? OK. Donc son allaitement, entre guillemets, son éducation a eu un impact sur sa vie d'adulte des années plus tard. Tout comme les enfants que Dieu nous confie, c'est exactement la même chose. On doit les allaiter, les éduquer dans les voies de Dieu, pour ensuite les lui rendre quand ils sont adultes, afin qu'ils servent Dieu et les plans que Dieu a pour eux. Vous voyez l'image ? Il est de la plus haute importance donc que les mères réalisent dès le début que leurs enfants sont un don de Dieu, un héritage du Seigneur, comme le dit le psaume 127. Ces enfants lui appartiennent, ils ne sont que confiés aux mamans et aux papas. Les enfants sont confiés aux mamans et aux papas pour un temps, juste pour un temps. Ces enfants, n'oublions jamais, ces enfants appartiennent à Dieu. Ceux-ci, les parents, ne sont que des administrateurs pour Dieu, chargés d'élever des enfants et de les lui ramener. Toutes les mères chrétiennes oublient si souvent à qui appartiennent leurs enfants, qu'elles commettent des erreurs en les éduquant ou en ne les éduquant pas d'ailleurs. Comment peuvent-ils être élevés dans les voies du monde et autorisés à faire ce qu'ils veulent alors qu'ils appartiennent à Dieu ? On oublie souvent ça, mais en fait ce ne sont pas nos enfants, ce sont les enfants de Dieu. C'est vrai que ça donne un autre éclairage quand on a des décisions à prendre pour leur avenir ou pour le quotidien. Je veux dire, un gamin qui est tenté à faire des dérapages, si on oublie que cet enfant est de Dieu, est un cadeau de Dieu et qui ne nous a que été confié, on ne peut pas l'autoriser à mettre sa vie en danger, par exemple. On ne peut pas l'autoriser à prendre de mauvaises décisions pour son avenir. Ce n'est pas possible. Sauf si on considère qu'effectivement, cet enfant n'est pas de Dieu et qu'on l'éduque dans les voies du monde. Ça, c'est deux choses différentes. Mais si on veut vraiment l'équiper et le préparer à servir Dieu, voilà, il faut se rappeler ça au quotidien. Et c'est vrai que le quotidien va vite. On est très sollicité sur beaucoup de choses. Et souvent, on oublie ça. On devrait se rappeler ça tous les jours. Attention, ça n'est pas mon enfant. Je ne l'éduque pas pour moi. Moi, j'ai appris ça. J'ai piqué du nez pas plus tard que cette dernière semaine. Le rôle du père. Alors, le papa. Quel terme magnifique que celui de père. En hébreu, c'est Abba, vous le savez. Donc, les papas, les pères de famille, portent en réalité le même nom que Abba, père, Abba, Dieu. Vous êtes appelés par le même nom que Dieu le Père. Vous êtes appelés par le même nom que Jésus emploie lorsqu'il s'adresse au Père, Abba. Vous portez un nom déjà qui est lourd de sens. Donc ça devrait déjà... Enfin, on incarne déjà la fonction avec un nom pareil, vous voyez ce que je veux dire. C'est un nom qui parle d'amour, de grâce, de compassion, de soins tendres et attentifs, de sagesse dans la direction et la discipline à l'égard des objets de son amour, ceux qu'il a engendrés. Et là, on parle de Dieu. Il parle de la relation la plus étroite qui soit, celle d'intimité et d'affection, celle du père et de l'enfant. Père, vous devez réaliser que vous êtes l'essence même de l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est énorme, c'est énorme. Vous ne pouvez pas prendre votre rôle de père à la légère après un truc comme ça, ce n'est pas possible. Ou alors, il faut vous coller ça dans la salle de bain à vous, quoi. Papa, en apprenant de ce père béni, en venant tous les matins auprès du père, recevoir son amour, recevoir ses forces pour la journée, recevoir un rafraîchissement quand c'est nécessaire, recevoir la sagesse, recevoir l'enseignement, ou juste échanger un temps d'amour avec votre Père céleste. C'est ça la relation qui vous unit à vos enfants. Donc si vous faites ce genre de choses, si tous les matins vous allez vers votre Père céleste et que vous passez un temps avec lui, que vous lui dites que vous l'aimez, que vous lui dites que vous avez besoin de lui, que vous lui posez des questions et qu'il vous répond, que vous cherchez en lui ce dont vous avez besoin, alors vous connaissez la qualité de la relation qui doit vous unir à vos enfants. Mais si vous ne faites pas ça, ne vous attendez pas à ce que vos enfants vous courent dans les bras le matin ou disent « Ah, papa » ou « Papa, je t'aime » ou qu'ils vous fassent des bisous. Non. Votre relation avec votre enfant est l'image de votre relation avec le Père Céleste. Ce que vous vivez avec le Père Céleste, vous allez le vivre avec vos enfants. Ce que vous ne vivez pas avec le Père Céleste, ne vous attendez pas à le vivre avec vos enfants. Pire encore, ne vous attendez pas non plus à le vivre à la maison avec votre femme. Donc, père, soyez conscient du rôle que vous avez. Vous avez, dans le mariage, reçu en plus de porter ce nom lourd de sens, vous avez dans le mariage reçu une autorité. D'accord ? Une autorité venue de Dieu directement. Si vous n'êtes pas l'autorité à la maison, alors vous créez un déséquilibre dans votre famille. Vous créez un déséquilibre qui va affecter toute la famille. C'est un déséquilibre qui va affecter votre relation avec votre épouse, parce que si vous n'êtes pas l'autorité... l'autorité a besoin d'être clairement définie dans une famille. Donc si ça n'est pas clairement défini, vous allez avoir un souci avec votre épouse. Si ça n'est pas clairement défini, vous allez avoir un problème avec les enfants. On a un problème avec le nôtre, Pierre. Parenthèse. Donc voilà, tout ça pour vous dire que votre relation avec vos enfants doit refléter celle que vous vivez avec votre Père Céleste. Ok ? Donc bon, c'est une lourde charge, au moins aussi lourde que celle de la maman. Pour finir avec cette partie, je voudrais quand même partager avec vous quelques points, quelques avantages qui ont été constatés chez des enfants qui vivent dans un schéma classique de famille avec un papa et une maman mariés ensemble, d'accord ? Alors, il a été relevé que ces enfants-là vivent en général plus longtemps, sont en meilleure santé, tant physique que mentale. On a remarqué aussi qu'ils avaient de meilleurs résultats scolaires. On a remarqué aussi qu'ils font de plus longues études. Ils sont moins enclins à la violence, moins sexuellement précoces et ont de meilleurs résultats dans leur mariage. Ensuite, le mariage est aussi une bonne chose pour les adultes. Ça n'est pas qu'une bonne chose pour les enfants. Le mariage, il est bon aussi pour les adultes. Voilà quelques points qu'on a aussi relevés, positifs. Le mariage protège du sentiment de solitude. En général, il protège les femmes de partenaires abusifs, procure un plus haut niveau de satisfaction sexuelle pour l'un et pour l'autre, améliore la capacité à devenir parent et augmente les épargnes et les achats immobiliers. C'est pas négligeable, après tout. Le mariage est aussi bon pour la société. Vous voulez combattre les problèmes de pauvreté dans la société, vous voulez stopper les violences faites aux femmes et aider les enfants à réussir leur vie ou à accéder à une éducation ou à une meilleure éducation, le mariage semble être la seule justice sociale dans tous ces domaines. Il semblerait qu'un mariage chrétien ou tout au moins un mariage selon la volonté de Dieu, donc oui, effectivement chrétien, aide à régler tous ces problèmes-là. Il est vrai que si tous les gens étaient mariés avec un mariage selon la volonté de Dieu, effectivement, il y aurait moins de gens seuls, moins de gens pauvres, les femmes auraient moins de partenaires abusifs, il y aurait moins tous ces problèmes de violence. Ça semble être la seule justice sociale possible actuellement dans le monde où nous vivons. Quand un homme et une femme travaillent ensemble à élever des enfants, ils sont tous au bénéfice de la société. Les enfants ont moins tendance à vivre dans la pauvreté, à tomber sous l'emprise de l'alcool ou des drogues, ou d'avoir des problèmes avec la justice. Ce n'est pas une règle, la règle suprême qui règle tout ça à 100%, mais c'est une tendance quand on étudie les statistiques. D'accord ? En 2008, le jour de la fête des pères, le sénateur américain Barack Obama, qui n'était pas encore président évidemment, a publiquement, dans son discours, reconnu l'importance que tient le mariage dans la société, disant, je cite, « Nous savons par les statistiques que les enfants élevés sans père ont 5 fois plus de chances de vivre sous le seuil de pauvreté et de tomber dans la délinquance, 9 fois plus de chances de connaître le décrochage scolaire et 20 fois plus de chances de faire un stage en prison, même pour de petits délits. Ils ont plus de chances que les autres d'avoir des problèmes de comportement, de faire des fugues, de devenir parents alors qu'ils sont encore mineurs. À cause de toutes ces raisons, notre société s'affaiblit. » Bon, il ne faut pas voir que le côté noir du truc. Hein. À l'opposé de tout ça, on voit aussi, grâce à Dieu, énormément de jeunes qui s'enflamment pour des grandes causes. Visiblement, la jeunesse aime s'enflammer pour des grandes choses. Donc, on voit des jeunes qui s'engagent qui sont très engagés, qui servent dans leurs églises, dans des associations, des choses comme ça. Donc, il faut encourager ces jeunes-là à aller essayer de faire la différence dans le monde. Le plan de Dieu en ce qui concerne le mariage contribue grandement à les aider à réaliser ce plan. Préserver la nature du mariage entre un homme et une femme est l'unique solution pour que règne une justice sociale telle que l'a voulu notre Dieu, et c'est la fondation même de notre société. J'ai une deuxième partie, mais on peut la faire rapidement si vous voulez. La deuxième partie, elle est vraiment destinée aux parents, pour vraiment donner des tuyaux sur la façon d'expliquer le mariage aux enfants. Parce qu'il est vrai qu'on n'explique pas le mariage aux enfants de la même façon selon qu'on a affaire à des enfants de maternelle, primaire ou des adolescents. D'accord ? Donc, ça vous va si on le fait vite fait ? Ouais. Dieu a créé le mariage pour notre bénéfice, on vient de voir tout ça. Le mariage entre un mari et son épouse reflète le cœur de Dieu, il reflète notre relation avec lui, l'unité qui nous unit à lui, l'amour qui nous unit à lui, les enfants, la famille, l'engagement et la confiance. Toutes ces bonnes choses sont vivantes au cœur d'un mariage en bonne santé, créant les fondations d'une société prospère. En tant que parents, nous désirons tous inculquer de bonnes valeurs à nos enfants. Des valeurs qui les aideront à se développer et à prospérer dans la société. Nous devons réaliser que s'il existe de nombreux ouvrages et conseils pour nous aider dans l'éducation des enfants, il y a beaucoup d'ouvrages et de conseils qui concernent des tranches d'âge comme les ados ou les pré-ados, des bouquins qui parlent des différences qui peuvent exister entre un garçon et une fille, les révolutions que connaissent les corps à l'adolescence, ce genre de choses. Mais en réalité, le mariage et ce qu'est le mariage, pour les tout-petits, il n'y a rien. Vraiment rien. Il y a un trou là-dedans. Si quelqu'un écrit des bouquins, voilà un bon sujet. Rien ou presque. Alors, voici quelques tuyaux vite faits par tranche d'âge. Le mariage expliqué aux tout-petits avant et pendant la maternelle. Alors, les tout-petits-enfants enregistrent tout, mais vraiment tout. Tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, tout ce qui se passe autour d'eux, ils enregistrent tout. Ce qu'ils apprennent du mariage, donc, va résider dans le fait de ce qu'ils vont voir. Et ce qu'ils vont voir, c'est ce qui se passe à la maison. Et ce qui se passe à la maison, c'est la relation qui existe entre papa et maman. Donc, papa et maman, deux tout petits enfants, faites bien attention à ce que vous reflétez à la maison, à ce que vous dites, à vos comportements, parce que ça, c'est ce que les tout petits enfants vont apprendre. Il est donc très important de leur enseigner ce qu'est le mariage par vos actions. Et on sait encore une chose, c'est que chez les tout-petits, le mimétisme est un moteur. Vous avez remarqué, les tout-petits, ils veulent tous faire comme papa, les petits garçons font tous comme papa, les petites filles font tous comme maman, mais au point des fois d'avoir les mêmes attitudes, les mêmes façons de parler. Le mimétisme, c'est un moteur très très important à prendre en considération chez les enfants. Donc, mimez tout ce que vous voulez que votre enfant mime, c'est-à-dire des marques d'affection, des paroles d'encouragement. Si votre gamin est baigné là-dedans, tout petit qu'il est, il va vouloir faire comme papa ou comme maman. Donc, il sera beaucoup plus facile de l'aider dans ce domaine-là et de lui montrer ce qu'est le mariage et de rendre toutes ces choses vivantes pour lui. Ça, c'est pour les tout-petits. Priez pour vos enfants. Priez vraiment pour les enfants, les tout-petits aussi, parce que les tout-petits, encore une fois, ils enregistrent tout. Il y a des termes, il y a des choses qui vont enregistrer. Vous n'allez pas vous en rendre compte, mais il y a des choses qui vont les marquer, des mots, des expressions. Surtout si ce sont des mots et des expressions qui reviennent souvent. La répétition, le mimétisme et la répétition chez les tout-petits. Les enfants de cour élémentaire. Alors, les enfants de cour élémentaire, les sujets qu'on vient de voir et les actions qu'on vient de voir maintenant sont toujours d'actualité, parce qu'en cour élémentaire, on est encore petit. Par contre, on peut un petit peu aller plus profond dans les sujets. Donc, avec des enfants de cour élémentaire, ils sont capables d'avoir un temps d'attention un petit peu plus long. Donc, profitez-en pour lire des histoires qui parlent de mariage ou pour regarder des petits films qui montrent une image positive du mariage. Je pense à un truc que vous connaissez tous, mais nos enfants, non. C'est La petite maison dans la prairie. Qui connaît La petite maison dans la prairie ? La petite maison dans la prairie, c'est... voilà, c'est la famille mariée, unie, pas avec un quotidien toujours facile, mais c'est vraiment la caricature du mariage qui fonctionne bien. Le papa qui est fou amoureux de la maman qui respecte le papa, les bonnes paroles échangées entre chaque membre de la famille. C'est vraiment voilà, ce genre de petits épisodes-là. Un gamin de primaire, il est tout à fait capable de le voir et de comprendre ce qui se passe. Lisez avec lui. Lisez-lui des histoires tirées de la Bible. Dans la Bible, il y a énormément d'histoires qui parlent de mariage, énormément de choses qui illustrent les mariages. Donc, lisez des histoires avec eux. Donc, pas tirées de vos Bibles, mais tirées de la Bible des enfants. Elle est extraordinairement bien faite, celle qu'on a à la boutique. Les mots sont simples, c'est clairement expliqué. Il y a toujours un petit résumé qui reprend tout le chapitre. C'est très, très, très bien fait. Donc, servez-vous de la Bible des enfants. Lisez avec eux. Et en primaire, les enfants commencent à lire. Et ils vont être tellement fiers de lire avec vous. Donc, lisez des histoires avec eux et puis faites-les lire. Ils vont vous lire la fin de l'histoire et ils vont être tellement fiers. Donc, les sujets sont toujours les mêmes à reprendre. Le mariage expliqué, alors avec une petite nuance, en fin de primaire, il est grand temps d'aborder le sujet de la sexualité avec les enfants. Donc commencer à introduire le fait que la sexualité est une des parties du mariage. Ça n'est pas le mariage, ça n'est pas le but du jeu, c'est une partie infime de la relation. D'accord ? Commencer à en parler. Parce qu'en général, en fin de primaire, les gamins commencent à être titillés par les hormones et commencent à avoir des questions. Donc plutôt qu'ils aillent chercher les réponses chez les copains, sur Internet ou dans les mauvais endroits, parlez-en avec eux, devancez ce genre de discussion. Le mariage expliqué aux collégiens. Donc là, les choses deviennent un petit peu plus profondes. Alors là, il existe des livres, un petit peu plus que pour les enfants. Donc procurez-vous ces livres-là. Regardez des films au cinéma avec eux. Discutez-en. Vous allez voir souvent, quand on parle de mariage ou d'histoires qui touchent les enfants au cinéma, vous avez remarqué, c'est toujours, enfin pas toujours, mais pratiquement, des orphelins, des enfants abandonnés ou des couples dont le papa ou la maman est décédé. Vous avez remarqué ? Hein ? C'est souvent ça les héros dans ce genre de film. Donc, faites le tri, prenez une histoire comme ça et puis aidez votre enfant qui est au collège et donc tout à fait apte à tenir des discussions d'adultes. Aidez-le à par exemple, en mettre le doigt sur les différences d'éducation qu'il peut voir dans le film entre ben voilà, cet enfant qui vit sans père ou sans mère, qui est abandonné ou qui est... voilà, et lui qui vit dans une famille où il y a son papa, sa maman. Regardez, faites des comparaisons et amenez-le à réfléchir sur le sujet.